VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, il est 15h à Bujumbura. Bonsoir, donc bienvenue à Addis Abeba. Le président Barack Obama s'est dit fier d'être le premier chef de l'exécutif américain à séjourner en Éthiopie. Une visite qui souligne, selon lui, l'importance que les États-Unis accordent à ce pays et à toute l'Afrique. Monsieur Obama a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn après leur consultation d'aujourd'hui au palais présidentiel. Des discussions qui ont porté essentiellement sur le développement économique, la lutte contre le terrorisme et la démocratisation en Éthiopie. Pour sa part, le premier ministre Desalegn a souligné la détermination de son gouvernement à améliorer la gouvernance et le respect des droits humains dans le pays. Également au programme du président Obama aujourd'hui même, une rencontre avec les leaders d'Afrique de l'Est sur la situation au Soudan du Sud. Camille Gros-Didier.
Le président Barack Obama devait s'entretenir lundi avec plusieurs dirigeants africains de la situation au Soudan du Sud, déchirée depuis plusieurs années par une sanglante guerre civile. L'autorité intergouvernementale sur le développement, un groupe de pays africains à l'origine de négociations entre les partisans du président Salva Kiir et ceux du dirigeant rebelle Riek Machar, a fixé une date butoir au 17 août pour que les deux camps acceptent une offre de paix définitive. En l'absence d'un accord, de nouvelles mesures devront être examinées. Parmi les mesures envisagées, un éventuel embargo sur les armes et des sanctions et restrictions de mouvement visant certaines personnes physiques. Les combats au Soudan du Sud ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 2,2 millions de personnes. Environ 40% de la population dépend de l'aide humanitaire.
Trois personnes ont été décapitées dimanche dans l'extrême nord du Cameroun. Des attaques attribuées aux islamistes nigérians de Boko Haram, selon des sources sécuritaires, rapporte l'AFP. Et samedi soir, une kamikaze adolescente s'est fait exploser, tuant au moins 20 personnes et blessant 79 autres dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord. Il s'agissait du 5e attentat suicide en 2 semaines au Cameroun. Crise au Burundi, les Burundais sont déterminés à défendre l'accord d'Arusha qui a ramené la paix dans leur pays malgré le forcing électoral du président Pierre Nkurunziza pour sa propre succession en violation de la constitution nationale. C'est ce qu'a dit à la Voix de l'Amérique le leader de l'opposition François Niamoya. Il est le secrétaire général du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD.
Il va au-delà de grandes difficultés, mais si ce n'était que sa propre personne, ça irait. Mais le problème, c'est qu'il emmène tout un peuple dans de grandes difficultés. Parce que au-delà des élections qui ne sont pas crédibles, je le répète, il y a derrière tout cela l'accord d'Arusha qui est la colonne vertébrale de la paix au Burundi. Et il est évident que cette élection a mis à mal non seulement l'accord d'Arusha et la constitution, mais il hypothèque l'avenir parce que notre pays a été fondé justement sur l'accord d'Arusha comme garant de la paix.
Maître François Niamoya, secrétaire général du MSD, au micro d'Éric Manirakiza. En Sierra Leone, le président Ernest Koroma annonce un plan de relance post-Ebola visant à redresser non seulement l'économie nationale, mais aussi les secteurs de la santé et de l'éducation. Le projet sera mis en place alors que le pays ne compte plus que 3 malades d'Ebola. Anne Albertson.
Le plan de relance du président sierra-léonais fait suite aux promesses de financement recueillies le 10 juillet dernier lors d'une conférence internationale des Nations Unies consacrée à la lutte contre Ebola. Plus de 804 millions de dollars ont été promis pour la Sierra Leone, permettant la mise en place de ce plan de bataille pour vaincre Ebola, comme l'a intitulé le président Koroma. Peu de détails sur le déroulement de ce plan, mais le président s'est donné 9 mois pour redresser le pays et 2 ans pour retrouver le chemin de la croissance. Selon le communiqué de la présidence, le secteur privé doit être revigoré, le réseau routier transformé et l'accès au marché amélioré. L'accès à l'eau et à l'énergie sera parmi les priorités. La Sierra Leone devrait également bénéficier d'une partie de l'enveloppe supplémentaire de 1,7 milliard de dollars, promise également à New York pour une relance régionale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et le dossier de ce journal nous conduit au Niger. Les employés du secteur pétrolier montent au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils accusent les partenaires chinois actionnaires majoritaires dans les deux principales sociétés de ce secteur, de ne pas respecter les règles. Situation qui dure depuis des années déjà. Reportage à Niamey de notre correspondant Abdulaziz Abdul Razak Idrissa.
Au niveau de la société de raffinage de Zender, la Soraz, les problèmes datent de 2012, soit une année après le démarrage des activités. Ces problèmes ont pour nom absence de statut et de grille de salaire pour le personnel nigérien, absence de plan de formation et bien d'autres. Des luttes menées par les délégués de ce personnel ont conduit à des engagements de la part de la direction générale de la société pour les résoudre, lesquels engagements devaient être entérinés par le conseil d'administration de la Soraz. Elimi Boukar est le secrétaire général du syndicat des travailleurs nigériens de la Soraz.
Au cours de 9 mois, il y a eu 3 conseils d'administration. Il y a la question donc de la grille salariale du personnel nigérien qui est inscrit à l'ordre du jour. Il y a la question donc du statut de personnel qui sont inscrits à l'ordre donc de ce conseil. J'ai dit pour la 3e fois, le conseil n'a pas décidé vraiment de donner une suite à cette doléance. Cet échec s'explique par la mauvaise volonté et la mauvaise foi de nos partenaires chinois qui sont soutenus par un certain nombre de dirigeants internes qui sont donc au niveau donc de la Soraz et que ces dirigeants bénéficient, ils s'octroient eux-mêmes de marcher dans leurs différents services. Ils contribuent à la mauvaise gestion et de ce fait aussi donc à l'exploitation donc de ce personnel nigérien.
Les problèmes sont presque identiques pour les travailleurs qui sont sur le site d'extraction du brut, comme en témoigne le secrétaire général du syndicat des travailleurs du pétrole, Seydou Abdou.
On vit les mêmes problèmes. Mais quant à Agadem, je vais vous notifier quelque chose qui se passe actuellement sur le terrain. Aujourd'hui, des travailleurs nigériens travaillent sur ce site et qui ne disposent même pas des contrats de travail. Sur le plan discrimination, des Chinois qui vivent dans des conteneurs et des Nigériens qui vivent dans des tentes. Vous vous imaginez la chaleur qu'il fait là-bas. Aujourd'hui, quand un Nigérien tombe malade, il a toutes les difficultés dans sa vie.
Engagé dans le combat pour la transparence dans la gestion des industries extractives, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab fait sienne cette lutte des travailleurs nigériens des sociétés d'exploitation du pétrole. Ali Idrissa et son coordonnateur.
Que des Nigériens qui sont plus de 400 ont 13% d'une masse salariale, pendant que d'autres s'octroient 87% de cette masse salariale, au vu et au su du gouvernement nigérien, je pense que c'est extrêmement grave. La situation doit nous interpeller tous pour que nous nous mobilisions, pour que cette situation de dérive au niveau des compagnies pétrolières dans notre pays cesse. Le Rotab, comme nous l'avions fait avec les compagnies minières, nous allions écrire au ministre du pétrole pour exiger l'audit de ces compagnies, à savoir la Soraz, la CNPC et la Sonidep. Il n'est pas question qu'on puisse continuer impunément à assister à cet esclavagisme moderne.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
À Madrid, en Espagne, premier jour de la réunion du comité antiterrorisme des Nations Unies, plus de 200 experts se penchent aujourd'hui sur le phénomène des combattants étrangers qui rejoignent les mouvements djihadistes dans le but de proposer des mesures aux pays membres. La Tunisie et le Maroc seraient les plus gros pourvoyeurs de jeunes recrues au groupe État islamique. Comment empêcher les jeunes de partir à l'aventure? La réponse du spécialiste des mouvements terroristes, Yann Saint-Pierre. Il est au micro de Claire Morin-Gibault.
La solution, elle doit être polyvalente, elle doit être adaptable, elle doit inclure tous les acteurs, non seulement qui sont touchés, mais aussi qui peuvent jouer un rôle. On parle de citoyens normaux, de gens qui s'engagent pour la sécurité communautaire, pour le développement, pour l'éducation. On parle des acteurs policiers, de l'armée, des acteurs gouvernementaux, des politiciens, la communauté d'affaires doit jouer un grand rôle pour donner à ces jeunes qui semblent beaucoup plus attirés par les perspectives de vie, les offres que l'État islamique semble leur proposer, pour faire en sorte que rester à la maison, que les perspectives d'avenir soient de nouveau localisées. La force de l'État islamique, c'est qu'en ce moment, c'est une organisation qui a énormément de succès. C'est une organisation dont la portée est réellement mondiale. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très attirant. Elle joue énormément sur l'aspect romantique du terrorisme, c'est-à-dire qu'il offre aux jeunes une place, un sens à la vie. Il leur donne une importance qu'ils ont l'impression qu'il fait défaut chez eux, que ce soit en Tunisie, en Libye ou ailleurs. Et donc, c'est impératif que les communautés, les pays atteints doivent trouver une façon de contrer l'aspect romantique du terrorisme offert par l'État islamique.
Yann Saint-Pierre, spécialiste des mouvements terroristes pour le groupe Mossecon. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.